Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.
Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons discuté du projet muséal du musée du Louvre-Lens comme un objet de révolution, un objet de réinvention politique, un objet de révolution culturelle et muséale. Et nous sommes toujours en compagnie d'Henri Loirette et de Daniel Percheron pour ce deuxième épisode. Nous allons y évoquer l'étonnant Paris qu'est l'architecture de ce musée, un Paris pour ceux qui ont fait le choix de ce projet de l'agence Sana, mais aussi un Paris pour les architectes eux-mêmes.
Absolument. Je pense que ce concours d'architecture était impressionnant. Il y avait de très grands architectes et à la fin, puisque Henri Loirette avait fait une campagne électorale éclair, blitzkrieg, pour imposer son choix, et il avait raison, Sana, Jean Nouvel m'a dit, quand je suis sorti, vous ne le construirez jamais. Hein, il est trop fin, trop fragile, vous n'arriverez pas à trouver les matériaux, ce Louvre-là ne sortira pas de terre. Donc ça veut dire que vraiment, l'architecture était tout sauf facile. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, un peu séduit par une verticalité qui me semblait, à l'image de Bilbao, un signal positif. Mais je pense que la galerie du temps était déjà programmée et que
de Sana... La galerie du temps n'était pas programmée, c'est-à-dire que j'avais l'idée simplement de la transdisciplinarité, en quelque sorte, de présenter l'ensemble des collections du Louvre. Et vraiment, depuis leur origine, en quelque sorte, je parle chronologique, jusqu'à 1850, de présenter tout le monde Louvre. Je me serais sans doute adapté d'un autre parti pris architectural, mais encore une fois, celui-là convenait le mieux et au site, je dirais, et à son objet d'accessibilité, voilà, et puis simplement la beauté aussi, la nouveauté de cette architecture. Les autres architectes qui allaient d'un concours à un concours, enfin je dirais, c'était, on dirait aujourd'hui, l'ancien monde, oui. Un tout petit peu. Oui. Là, il y avait quand même quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que l'on voyait. Hein, c'était une autre note. Et je dirais, là, vous êtes trop modeste. Je sais que ce n'était pas votre choix initial, mais c'est quand même vous qui avez pris la décision, en fin de compte. Vous avez approuvé mon ardeur.
Ah, oui. Bon,
mais vous auriez pu dire non.
Bon, vous vous rendez compte?
Et je crois que...
Ce n'était pas possible.
Ça s'est bien passé comme ça. Et on a eu des architectes, alors l'équipe de Sanaa, avec Madame Sejima, avec Ryo et Nishizawa, qui ont été constamment attentifs. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude d'un musée. Ils avaient construit effectivement le musée du XXe siècle à Kanazawa. Ils savaient ce que c'était. C'était aussi des gens qui avaient un intérêt pour tout ce qui était design, je dirais, qui connaissaient d'autres artistes. On l'a vu, par exemple, avec le travail qu'a fait Kusama, par ailleurs, etc., qui étaient sensibles aussi à tout ce qui était l'environnement, le parc, etc. Donc, il y avait véritablement l'idée de construire quelque chose globalement, en quelque sorte, et un magnifique objet. Et l'idée de transparence, l'idée de perméabilité, en quelque sorte, de glissement facile d'un espace à l'autre, correspondait parfaitement à leur architecture, à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils savaient faire. Donc on n'a eu aucun mal à se glisser là-dedans. Alors il y a des petites choses que l'on a supprimées, je dirais, il y a certaines contraintes par lesquelles on est passé, effectivement. Mais je crois qu'il faut être conscient aujourd'hui, parce que je connais pas mal de musées dans le monde, que vous n'avez pas au monde un musée comme ça. Vous n'avez pas un musée. On dit, je dirais, on a l'impression en disant que c'est une architecture humble, etc., parce qu'on n'a pas eu ce grand geste architectural que beaucoup attendaient. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous arrivez devant l'entrée, que vous voyez cet immense déploiement quand même des façades, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Il y a dans le développé, alors c'est plutôt à la surface, on parle plutôt de peau que de hauteur, mais c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et ça, je pense que, alors ensuite, il y a d'autres musées qui ont été construits sur le modèle, mais la qualité de l'éclairage, par exemple, son adaptabilité, on le voit dans l'espace d'exposition temporaire, qui est très exactement l'espace d'exposition temporaire dont le Louvre à Paris aurait besoin et qu'il n'a pas, vous avez là quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc je pense que vous pouvez être content et fier, je dirais, de ce Louvre-là.
Écoutez, il y a des chefs-d'œuvre dans lesquels je pense qu'il est difficile de vivre et de travailler, mais le musée du Louvre-Lens n'en est pas. C'est un bonheur d'y travailler tous les jours. Je pense qu'il y a, un sujet autour de, effectivement, la transparence, la lumière, l'échange permanent avec l'extérieur, une espèce de, à la fois de, c'est une espèce de paysage, en fait, le Louvre-Lens, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Oui, d'ailleurs, c'est la seule colère à laquelle j'ai assisté, hein. Henri Loiret à l'intérieur de la galerie du temps, étudiant les circulations, oui, un peu ligoté par nous comme un Gulliver courroucé, disant donc c'est fini, vous sortez, je réfléchis, et concluant sur ces murs, hein, cette nouvelle transparence que nous devions essayer et éventuellement valider, sur cette atmosphère, comme le dit Henri, unique au monde. Quand on est dans la galerie du temps, elle est, vous l'avez dit, elle est sublime. Mais c'est vrai, elle est sublime.
Mais l'aluminium fait beaucoup.
Ah, l'aluminium fait énormément.
De réflexion, de profondeur aussi.
Et je pense que pour Sanaa, ça a été...
quelque chose, mais c'est une idée de génie.
Ah oui,
c'est une idée de génie.
Donc c'est la seule fois où Henri est sorti de ses gonds. Et bien entendu, nous nous sommes inclinés rapidement.
On a vu ce que ça donne. Enfin, je dirais, le résultat est absolument
magnifique.
Absolument magnifique.
J'ai une petite question d'ailleurs sur un autre élément de la Galerie du Temps, qui est cette pente légère du sol. C'est quand même le seul musée au monde, là aussi, où le sol n'est pas plan. Hein. On domine légèrement la Galerie du Temps. Alors, je sais qu'il y a eu des histoires de contraintes à un moment qui ont abouti à cela, mais comment on en est arrivé là, et comment on a accepté ça, comment même on en a fait un atout, finalement. C'est un point très fort de la Galerie du Temps et de l'expérience qu'elle offre aux visiteurs.
Il y a deux choses, je dirais, et qu'on a tout de suite pris en compte. C'était l'arrivée vous donne un léger surplomb, c'est-à-dire vous donne une vue panoramique de cette Galerie du Temps. Vous voyez jusqu'au fond, vous dominez en quelque sorte votre objet et vous n'êtes pas perdu, c'est-à-dire que vous savez où vous allez. Ça, c'est très important. Et l'autre idée, simplement toute bête, je dirais, c'est qu'on remonte le temps, en quelque sorte, et qu'il y a effectivement cette langue remontée, lente remontée à travers le temps et à travers les œuvres qui est perceptible dans le cheminement. Ce qui est extraordinaire avec l'architecture de Sanaa, c'est que c'est une architecture sereine aussi. Il y a quelque chose dans des musées qui sont quelquefois des musées extrêmement violents. Et on a vu notamment dans les années 80, dans les années 90, avec des musées comme ça, je dirais, qui jouaient beaucoup de façon presque agressive, en quelque sorte, avec leur architecture intérieure, quelque chose qui est, à l'instar d'ailleurs de ce que pouvait faire dans un autre genre, mais avec beaucoup d'efficacité, de brio, un Renzo Piano, par exemple, la Fondation BLR, ou à Houston, à la fondation de Ménil, quelque chose d'extrêmement calme et serein. Je veux dire, de naturel dans la démarche. C'est un musée où on va lentement. Ce n'est pas un musée dans lequel vous vous hâtez. Ce n'est pas un musée dans lequel vous vous précipitez. On voit tout de suite où on est. On se repère facilement. On n'est pas perdu. Vous savez, c'est très angoissant, je sais, pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, où est-ce que je me trouve dans un musée? Où est-ce que la sortie? Comment... Voilà, il y a l'impression de dominer très facilement, enfin, ou de comprendre très, très facilement, plus exactement, l'agencement de ce musée et ce qui s'y passe. Et ça, c'est véritablement un des points très, très forts de cette architecture de Sanaa. Vous disiez, le sol n'est pas plan. Enfin, il y a cette remontée, puis on redescend et on remonte lentement. De même que les murs ne sont jamais droits. Mais c'est de façon extrêmement subtile. Pas du tout, ce n'est pas des grandes courbes, ce n'est pas des angles comme ça qui est cassant. Et c'est véritablement tout se fait d'une façon extrêmement subtile et douce. Et je pense que ça joue beaucoup, effectivement, à la fois dans la beauté de cette architecture, mais aussi, je dirais, dans son succès et dans sa facilité d'appréhension pour le public.
J'aimerais vous entendre à propos d'un autre espace qui fait suite à la Galerie du Temps, d'ailleurs. Donc à la fin de la Galerie du Temps, on remonte légèrement et on pénètre dans le pavillon de verre. Quel était le sens de cet espace initial, qui est un véritable chef-d'œuvre d'architecture, à mon sens, posé au milieu du paysage, habillé simplement de deux pots de verre, sans aucune colonne qui le soutienne?
Mais là, il y avait d'abord la volonté de montrer effectivement le paysage et de montrer où nous étions. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit un musée. Il y a deux endroits où... C'est l'entrée, c'est le hall d'entrée, effectivement, et ce pavillon de verre, où il fallait voir voir cet environnement, notamment les deux grands terris, de comprendre en quelque sorte sur quel terrain était implanté le Louvre-Lens. Il répondait aussi par son architecture et par ses pavillons, je dirais, je ne sais pas comment on appelle ça à l'intérieur, ces enclaves en quelque sorte qui permettaient des présentations différentes, quelques dossiers, je dirais, autour et de présenter autrement les œuvres. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été tenu. Si on tient au programme, c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé et qui pour moi manque. Alors c'est une supplique en quelque sorte que j'adresse à la directrice du Louvre-Lens aujourd'hui. Une chose qui est très très importante dans le cadre des collections du Louvre, c'est la question de la contextualisation. Au Louvre, je veux dire, 95% des objets n'ont pas été conçus pour le musée. Ils ont été conçus pour être des objets de dévotion, pour être des objets usuels, si on parle de l'archéologie, pour la commande d'un prince ou de tout ce que l'on voudra. Et qu'à partir du 19e siècle, appartient donc, je dirais, à l'extrême fin des collections du Louvre, sur 50 années peut-être, avec Ingres de la Croix, cette génération qu'apparaît en quelque sorte en arrière-plan, en arrière-fond, l'idée de musée, que les artistes commencent à travailler pour le musée. Mais le Louvre reprend sur toutes ses œuvres une sorte d'éclairage unanime qui est celui de l'objet du musée, finalement, et privé de toute contextualisation. Et j'avais pensé qu'il aurait été intéressant dans ces bulles, je ne sais pas comment vous les appelez, je ne sais pas s'il y avait un terme que l'on employait alors, d'essayer de contextualiser ces objets, c'est-à-dire de montrer comment on pouvait leur regarder, d'essayer de retrouver leur poids originel. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la question des icônes. Elles ne sont pas faites, ne sont pas des œuvres d'art. Elles ne sont pas faites à peine pour être vues. Elles sont faites pour être vénérées, par exemple. Et tout se marque par la vénération, la proskynèse. Et tout se voit, je dirais, à la lumière des cierges et dans les vapeurs d'encens. Et là, vous comprenez tout d'un coup, effectivement, je dirais, ce poids originel de l'œuvre d'art. Vous induisez un autre regard sur l'œuvre d'art plutôt que ce regard, je dirais, réitéré d'une œuvre à l'autre, alors même qu'elles n'ont pas le même propos, la même origine, qui est celui, en quelque sorte, de l'objet de musée. J'avais pensé que dans ce pavillon de verre, c'était le type d'expérience qu'on pouvait faire. Je ne crois pas que ça a été réalisé, mais vous avez des années devant vous, chère Marie, donc c'est peut-être quelque chose que vous pourriez envisager.
Le choix qui a été fait au musée du Louvre-Lens, fondé d'ailleurs sur cette espèce de douceur accompagnante de l'architecture et de la muséographie que vous décriviez, ça a été une médiation humaine très très importante hein, pour accompagner justement le visiteur dans la découverte par ailleurs d'une des muséographies, c'est vrai, les plus libres de tout texte et de tout contenu de toute l'histoire des musées. J'aimerais peut-être qu'on évoque la question du parc, Daniel Percheron, parce que ce musée, encore une fois, quand on y arrive, ce qui frappe, c'est qu'il est non pas en bordure d'un terrain, bordé par un jardin, il est au milieu d'un parc.
Oui, il est au milieu d'un parc. C'est un peu le miracle du Louvre-Lens, hein, que le maire de Lens ait pu offrir, en pleine centralité urbaine, cette friche liée à l'exploitation minière, et qui était immense, verdoyante, pour reprendre l'expression d'Henri, avec une végétation un peu malingre, qui montrait bien qu'elle attendait de renaître. Et je trouve que le parc est de plus en plus beau. Au début, j'étais un peu inquiet, je n'étais pas enthousiaste.
C'est moins qu'on puisse dire.
Oui. Mais bon, petit à petit, le parc est remarquable, et vécu comme tel. Et sans ce parc, et sans l'arène voisine, sans les réserves, je pense que nous ne pourrions pas tenter, et je souhaite que nous le tentions, la centralité lensoise. Et la centralité lensoise, c'est la centralité de l'agglomération de Lens-Douai, c'est-à-dire 550 000 habitants. Et cette centralité de 550 000 habitants, si Xavier Bertrand, mon successeur, la prend vraiment en compte, et je crois qu'il est prêt à le faire, c'est ce que je pourrais appeler le Grand Lille de demain. Autrement dit, avec Bollard, avec le Louvre, avec les réserves de Louvre, nous avons esquissé une métropolisation douce. Et avec le Louvre et avec Michel Desvignes, nous avons esquissé ce qu'il a appelé l'archipel vert, en nous disant tout est horizontal les espaces existent, ce sont des corons, mais en même temps des corons jardins, des cités jardins. Vous pouvez transformer l'archipel noir en archipel vert. Donc c'est tout ça le Louvre. Alors, nous sommes en France, hein. Nous ne sommes pas dans le Pays basque, où la région basque touche 92% de l'ensemble des impôts d'État et régionaux. Et le président de la République est venu au Louvre, est venu à Liévin, dire que cet archipel vert, il était d'accord pour le bâtir. De deux manières, en faisant le RER Lille-Lens et en faisant l'ANRU, le renouvellement urbain du bassin minier, de manière nouvelle, originale et amplifiée. Bref, on peut dire que 15 ans après le début de l'aventure, nous sommes aux portes de l'effet Bilbao. Nous allons peut-être réussir l'urbanisation, la discrète, la métropolisation complémentaire et discrète du bassin minier. Ce qui serait un succès formidable. Mais sans le Louvre, c'était impossible. Voilà, les enjeux. Alors, faisons en sorte que tous les acteurs en soient persuadés. La visite du président, pour moi, a été décisive. Hein, parce que nous avons, depuis 2012, un peu fait du surplace. Pas le Louvre, hein, pas le Racing, mais la vision globale qui justifiait l'investissement passionné dans le Louvre des uns et des autres est en train de déboucher sur une vision globale et une renaissance définitive de ce qu'on appelait le bassin minier. Le plus dur est fait.
Merci beaucoup. Peut-être juste avant de nous quitter, vous replonger dans cette journée du 4 décembre 2012, Henri Loirette.
Ben, c'était une journée attendue. C'était une journée froide dans mon souvenir.
Oui, la neige.
La neige. C'était une journée gadouilleuse, si on parle du parc que l'on voit maintenant sous un beau jour. Mais on était vraiment au lendemain. C'était à peine abordable. Et puis c'était, je dirais, voilà, cette ouverture tant attendue, tant espérée. Et voilà, moi je savais que je quitterais le Louvre, je ne l'avais pas encore dit, mais je le savais depuis quelque temps, je l'avais déjà dit au président de la République. Et voilà, c'était, je ne dis pas un couronnement parce que je ne l'ai pas vécu comme ça, mais c'était quand même...
Une belle journée.
Une belle journée, le sentiment d'avoir achevé. J'ai toujours dit, c'était vraiment un des projets, sinon le projet dont je suis le plus fier, en quelque sorte, voilà. Et il n'y a rien... Dans le Louvre-Lens, alors ensuite, il y a, dans tous les projets que l'on peut faire, il y a toujours des choses, vous pinaillez, vous dites, c'est pas exactement... Non, là, il n'y avait rien. C'était parfait. Enfin, parfait. Je le voyais comme ça. C'est comme ça que je le jugeais. Et je ne voyais rien qui me chagrine, qui me choque, qui me... Vous savez, quand vous êtes patron de musée, vous le savez aussi bien que moi, vous êtes attentive au moindre détail. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les grandes choses, c'est un tableau trop bas, c'est un truc qui va pas, quelque chose qui foire. Que... Voilà. Mais là, c'était un bonheur complet. Ça correspondait très, très exactement avec ce rêve que Daniel et moi, nous avions posé 10 ans plus tôt. Quoi. Alors, on avait de quoi être heureux, d'être épuisé aussi. Oui, enfin, moi, j'étais épuisé. Oui. Voilà.
Après, moi, c'était une très belle journée. J'ai présenté à François Hollande, mon président, Georges Lèche, l'ailier droit de l'équipe de France, issu de Lens, à 18 ans, qui était aussi fort que Maradona, qui était un footballeur d'exception. François a pu parler football. Deuxièmement, j'étais persuadé qu'Henri Loirette était immortel et que par conséquent, l'histoire du Louvre allait continuer. Je ne savais pas que mon univers allait s'effondrer provisoirement lorsqu'il nous dirait qu'il partait. Ouais. Et Henri, j'avais le sentiment que le miracle avait bien eu lieu et que tout avait été parfait. Le président de la République était très content.
Et puis, mais tout le monde était heureux à part ça.
Oui, Jacques Toubon avait apprécié. Avait découvert. Lionel Jospin, impénétrable, semblait quand même conquis.
Absolument. Ah ouais.
Et par conséquent, c'était une très belle journée. Et Madame Aubry avait pu accueillir, détachée du peuple qui attendait l'inauguration, en tête à tête, le président de la République. Donc, nous n'avions fait un sans faute.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci, cher Henri Loirette. Merci, cher Daniel Percheron. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouveau podcast. Nous nous retrouvons très bientôt pour discuter justement de l'aventure que fut également la construction, le chantier du musée du Louvre-Lens.
Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.